Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, à l'occasion de la nouvelle année, nous allons réfléchir à nos espoirs et à nos vœux pour l'année à venir.
Ce sont nos espoirs qui donnent un sens à notre vie. Ils nous incitent à aller de l'avant, à poursuivre notre marche quotidienne, car des objectifs sont devant nous.
À l'occasion du nouvel an, nous adressons à nos familles et à nos amis des vœux. Ces vœux expriment nos espoirs pour l'avenir. Nous pouvons ainsi souhaiter à nos proches le bonheur, une bonne santé et la prospérité.
Beaucoup aspirent à la paix dans un monde marqué par la violence et les conflits. D'autres aspirent à la justice, car ils subissent l'oppression et l'inégalité.
Et pourtant, nos espoirs ne vont pas forcément se réaliser. Combien de projets sur lesquels nous avons porté tant d'espoir tombent à l'eau. Reprenons les vœux de bonheur, de prospérité et de santé exprimés au début de chaque nouvelle année. Il suffit en fait de peu de choses pour que tout bascule et que nous soyons plongés dans le malheur, la pauvreté ou la maladie.
Mais existe-t-il une espérance sur laquelle nous pouvons nous appuyer? Car les espoirs des hommes semblent effectivement si fragiles, éphémères.
Oui, la Bible affirme que nous pouvons mettre notre espérance en l'Éternel, et nous n'en serons jamais déçus. Écoutons maintenant la lecture du psaume 130, puis avec notre invité André, nous méditerons sur le thème biblique de l'espérance.
Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités.
Nous allons donc parler à l'occasion du nouvel an des espoirs qui nous animent en tant qu'êtres humains et de l'espérance qu'offre l'Éternel, espérance qui nous est présentée dans la Bible. Nous avons choisi le psaume 130 comme point de départ pour explorer ce thème. André est de retour pour nous aider dans nos réflexions. Bonjour André.
Bonjour.
André, par où voulez-vous commencer?
Il y a deux éléments que je trouve frappants dans ce psaume. Tout d'abord, l'auteur se trouve confronté à d'incroyables difficultés, mais il s'accroche à son espérance. Il reste persuadé que grâce au secours de Dieu, les mauvais jours céderont la place à un avenir meilleur.
Et comment arrivez-vous à une telle conclusion?
Dans ce psaume, nous rencontrons deux images qui nous permettent de comprendre ce que je viens d'affirmer. La première, c'est que l'auteur se dit être au fond de l'abîme. Et dans la deuxième image, l'auteur se compare aux gardes qui veillent la nuit et attendent le matin.
Quel est le sens de ces images? Commençons avec celle de l'abîme.
Oui, dans la poésie des psaumes, l'abîme évoque tout ce qui est angoissant. L'abîme est un endroit où la mort semble proche. C'est un endroit où l'on se sent piégé, impuissant, sans aucune issue. L'abîme représente donc toutes les situations difficiles de nos vies où nous avons tendance à laisser les sentiments négatifs nous envahir. L'inquiétude, l'angoisse et même le désespoir.
Il est intéressant de noter que l'auteur du psaume, alors qu'il se trouve dans l'abîme, continue à invoquer l'Éternel.
Vous avez raison. Alors que tout semble humainement perdu, il sait que sa situation n'est pas sans espoir. Il se tourne vers celui qui seul peut intervenir, car il est la seule véritable source d'espérance. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver devant de grandes difficultés. Vous pouvez être angoissé dans ce monde malheureux et méchant. Cependant, ce psaume nous rappelle que même dans les circonstances les plus extrêmes, il y a quelqu'un vers qui se tourner. Il y a une source d'espérance sur laquelle s'appuyer, l'Éternel.
Et la deuxième image que vous voulez évoquer, ajoute-t-elle quelque chose à ces pensées?
Même si les idées qui se dégagent de cette deuxième image ressemblent à la première, je suis convaincu qu'elle apporte tout de même quelque chose de plus.
Il s'agit d'une image qui évoque les gardes qui font de nuit une ronde sur les remparts d'une ville fortifiée.
Oui, être guetteur de nuit n'est pas forcément un travail facile. L'obscurité de la nuit peut susciter des angoisses. Les guetteurs pouvaient se sentir très seuls face aux dangers potentiels et pendant la nuit, notre imagination a peut-être tendance à amplifier nos craintes. Pour les gardes sur les remparts, les nuits pouvaient sembler interminables. Donc, tout comme l'image de l'abîme, cette image de la nuit évoque les moments difficiles de nos vies. De plus, nos craintes peuvent être amplifiées si nous imaginons des scénarios à catastrophe qui rendent la réalité plus sombre encore. Nous pouvons tout voir en noir. Enfin, lorsque nous passons par des moments ardus, nous ne voyons plus forcément comment nous en sortir. La situation semble interminable, sans issue, sans fin. Et c'est justement sur ce point que le psaume introduit une merveilleuse note d'espérance.
Dites-nous donc comment vous voyez naître l'espoir dans cette image des gardes qui font le tour des remparts.
Il est dit que ces gardes attendent impatiemment le matin, car nous savons que pour eux, la nuit suscite la terreur et l'angoisse, d'être surpris par un ennemi, la peur d'être blessé, la peur de mourir. Mais ils savent que le soleil finira par pointer à l'horizon. La lumière, tôt ou tard, chassera les ténèbres. Même si la nuit semble par moments interminable, elle ne l'est pas. Ces gardes n'ignorent pas que le jour succédera à la nuit, car la nuit n'est pas sans fin, son temps est limité.
Et c'est donc l'attente de la venue du jour qui aide les gardes de nuit à tenir ferme et à supporter de longues heures. Un travail difficile et à risque.
C'est exact, et il en est de même pour nous. Quand nous avons cette certitude, cette espérance que l'avenir va apporter des changements positifs à nos circonstances, cela nous aide à mieux supporter les événements pénibles de notre existence et à les surmonter.
Quelle est donc la leçon principale de ce psaume ?
L'image qui nous a intéressés jusqu'alors me conduit à la conclusion suivante. Quelles que soient nos conditions de vie aujourd'hui, un meilleur avenir attend celui qui place sa confiance en l'Éternel. Cela est aussi sûr que le jour succédera à la nuit.
Mais comment pouvez-vous en être si certain? Sur quoi s'appuie cette espérance?
Le psaume lui-même rappelle trois vérités sur lesquelles se base notre espérance. La promesse de Dieu, la délivrance de Dieu et le caractère de Dieu.
Prenons donc la promesse de Dieu. Qu'a donc promis l'Éternel?
Les promesses de Dieu apparaissent tout au long de la Bible et sont données en fonction des temps et des circonstances traversées par les hommes. On peut les résumer ainsi. Dieu promet de secourir son peuple et de les conduire vers un avenir meilleur. Nous constatons que Dieu tient sa parole. Il accomplit toutes ses promesses sans faillir. Par exemple, il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte et il a conduit ce peuple jusqu'au pays de Canaan, où il leur a donné leur propre terre et les a établis comme une nation. Dieu a également à maintes reprises promis d'envoyer un roi sauveur par excellence, parole réalisée avec la venue de Jésus-Christ dans le monde.
Il est certain qu'une espérance qui s'appuie sur la parole infaillible de Dieu a de la valeur, tandis que les espoirs fondés sur les promesses humaines, incertaines et parfois trompeuses, peuvent ne pas aboutir. Mais quelles sont les promesses de Dieu qui nous concernent surtout aujourd'hui?
Celles qui doivent retenir notre attention évoquent le retour du Seigneur Jésus dans sa gloire. Ce jour-là, il ressuscitera les siens d'entre les morts et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Une vie où tous les maux et les malheurs qui nous affligent disparaîtront.
Pouvez-vous citer des promesses à ce sujet?
Écoutons quelques versets de l'Apocalypse de Jean. Commençons avec le chapitre 21, versets 3 et 4.
Voici le temps de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu.
Et enfin, Apocalypse, chapitre 22, versets 3 à 5.
Il n'y n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur le front. Il n'y aura plus jamais de nuit.
Merci pour ces textes qui rappellent si clairement la nature de notre espérance. Ils dépeignent un avenir merveilleux pour ceux qui placent leur foi en l'Éternel. Cependant, cette espérance, cet avenir extraordinaire, semble nous être réservé lors de la vie éternelle. Que pouvons-nous espérer de Dieu aujourd'hui et demain? Nous faut-il tout simplement endurer les difficultés de la vie actuelle, tout en attendant le retour de Christ?
Il est vrai que l'espérance du chrétien concerne avant tout le retour de Christ, car en ce jour, Dieu nous accordera une délivrance parfaite et définitive de tous les maux qui nous affligent, la mort, le péché, la souffrance. Il est également vrai que Dieu nous demande de persévérer en attendant ce jour de libération. Dieu nous donne cette espérance, cette certitude que ce jour viendra, et c'est cette assurance qui nous fortifie dans notre attente. Toutefois, Dieu est aussi avec nous, dans nos souffrances. Il est le Dieu compatissant, plein d'amour. Il est tout-puissant. Alors il peut intervenir pour nous secourir, changer nos circonstances, nous soulager, nous accorder des moments de répit et de repos. Nous savons qu'il accorde des délivrances. Mais en même temps, il faut être réaliste. Puisque les maux et les malheurs frappent notre monde, le secours que l'Éternel nous accorde aujourd'hui n'est pas définitif, car nous demeurons exposés au péril de ce monde. Cependant, si de nouvelles épreuves peuvent nous plonger dans le doute, dans la peur, nous devons aussitôt mettre notre espérance en l'Éternel et attendre son secours.
J'ai remarqué dans l'un des versets lus tout à l'heure qu'il n'y aura plus de nuit dans la vie éternelle.
Dans ce verset, la nuit représente, entre autres, le mal et le péché, tout ce qui engendre l'angoisse et la souffrance. Après la résurrection d'entre les morts dans la vie éternelle, ces choses n'existeront plus. Car la lumière de Christ, la lumière de sa grâce et de son amour, répandra la joie et la paix. Jésus nous donne un aperçu de cette lumière maintenant, mais dans la vie éternelle, cette lumière brillera pleinement, interminablement. Elle chassera définitivement toutes les mauvaises choses représentées par la nuit. Nous mènerons donc une vie plus jamais assombrie par la peine et les malheurs. Ceci est une certitude, car elle est fondée sur les promesses de Dieu adressées à tous ceux et celles qui placent leur foi en lui. Voilà notre espérance.
Nous remercions André pour sa participation aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de celui qui seul représente une espérance solide et certaine dans ce monde.
Nous voulons aussi vous adresser tous nos meilleurs vœux pour l'année qui commence. Nous vous souhaitons bien les bénédictions de la part du Seigneur, mais par-dessus tout, nous prions que l'espérance que Dieu offre soit une réalité dans vos cœurs, qui vous soutienne jour après jour.
Au revoir et à bientôt.